France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
20 ans après les émeutes, est-ce que nous avons enfin appris à parler de la banlieue et des quartiers? C'est le thème de ce soir, et en même temps que j'écris cette phrase, évidemment que je viens de tomber dans le premier piège. Les émeutes, sur le moment je peux comprendre qu'on ait dit ça, qu'on ait écrit ça. Mais aujourd'hui, on ne dit toujours pas la colère, même si elle est très mauvaise conseillère et que rien ne justifie évidemment que l'on casse. Mais bref, on ne dit pas colère. Et si je fais la comparaison, c'est parce que pendant la période casse des gilets jaunes par exemple, on n'a jamais parlé d'émeutes, on n'a parlé que de colère. Ce ne serait venu à l'esprit de personne de parler d'émeutes. Quelle grille de lecture plaquons-nous toujours sur notre relation au quartier? Pourquoi c'est si difficile d'avoir un regard, un regard normal? Quel est le train qu'on n'a pas su prendre encore? Alors quand même, en 20 ans, évidemment que des choses ont changé, évidemment qu'on a appris beaucoup de choses sur les quartiers et ces villes de banlieue qui ont aussi beaucoup changé, même si beaucoup évidemment reste à faire. Et puis surtout, les banlieues sont venues nous dire qu'elles savaient se débrouiller toutes seules, merci bien. En 2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux par exemple. Maintenant, oui, les vidéos sur le téléphone, les chaînes YouTube, les comedy clubs par exemple, ont fait aussi un travail qui était probablement nécessaire et qu'on n'aurait pas fait sans tous ces gens issus de la banlieue. Alors est-ce que ça a fait bouger, ça nous a fait bouger, nous, de notre côté du périph'? Est-ce que notre vision de la banlieue s'est adoucie? Est-ce que, au contraire, ces 20 dernières années, elle s'est durcie? Y compris parce que politiquement, on ne va pas se cacher les yeux, la France a beaucoup changé ces 20 dernières années. C'est ça que nous allons explorer ensemble ce soir. Parler de la banlieue sans sombrer dans les clichés, ni dans un sens d'ailleurs, la drogue, les trafics, la violence, ni dans l'autre. Ah, l'entrepreneur qui a réussi, parti de rien, quel joli portrait. Comprendre si on sait mieux porter les récits aujourd'hui de la banlieue, comprendre qui les porte aussi, ces récits de la banlieue, c'est le téléphone sonne. Les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marie, la première, c'est vous et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de prendre ma perspective. En fait, quand j'ai écouté tout à l'heure la présentation de l'émission, j'ai entendu la banlieue et ça m'a fait sursauter parce que j'ai grandi en province ou en région, comme on voudra, et je suis arrivée jeune adulte à Paris. Et pour mon mari et moi, qui était mon compagnon déjà à l'époque, c'était impensable d'aller vivre en banlieue. C'était quelque chose, c'était de l'ordre du cauchemar, la banlieue. Le mot la banlieue, ça évoquait quelque chose de terrible.
C'était quand, pardon, puis, Marie, c'était quand?
Oui, c'était en 1996.
D'accord, ok.
1996, et moi j'avais grandi en banlieue, mais la banlieue de Limoges, et je ne savais même pas que j'étais en banlieue, puisqu'à l'époque, banlieue n'évoquait que quelque chose de terrible. Et puis, ben voilà, presque 30 ans plus tard, j'habite en banlieue. Et ouais. J'ai une super vie en banlieue, je suis ravie et parfois je me sens pas chez moi à Paris ou pas accueillie. Ça c'est peut-être autre chose que je veux dire aux Parisiens, c'est que les banlieusards ils ont mille vies, ils ont mille perspectives et on a envie d'être aussi bien accueillis dans notre capitale qui est la capitale de tous. Voilà.
Et vous habitez où? Je peux vous demander où vous habitez, Marie, ou pas?
Là, oui, bien sûr.
Dans quelle banlieue?
Alors pour les plus de 37 ans, vous direz oh oui, j'habite à Chambourcy. Okay. Et pour les moins de 37 ans, vous allez vous dire pourquoi? Voilà.
Moi, je l'ai, la ref, mais et pourtant, j'ai 28 ans. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cette entrée en matière. J'aime bien ce que vous nous dites sur le vocabulaire, en fait, sur la banlieue et pas évidemment les banlieues, parce qu'au fond, moi aussi, j'ai grandi en banlieue, mais j'ai grandi au Perreux-sur-Marne, ce qui n'a évidemment rien à voir avec Trappes où a grandi notre invité. Bonsoir, Mathieu Longat.
Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai grandi à plaisir, mais je faisais de l'improvisation théâtrale, ouais, effectivement, à Trappes et j'ai grandi en banlieue. Et effectivement, je trouve que
Pardon, mais je vous en prie, j'allais présenter l'autre invité, mais vous êtes parti, puis surtout expliquer aux gens que vous êtes comédien, vous êtes scénariste, vous êtes vidéaste. Il y a des gens qui se souviennent de Bonjour Tristesse sur YouTube, c'était vous. D'autres qui se souviennent aussi de Narvalo sur Canal. Ça a duré combien de saisons?
Il y a eu trois saisons.
Trois saisons, ouais, c'est ça. Trois saisons sur Canal. Et L'État des Gueux, c'était l'année dernière.
Exactement,
ça,
j'ai arrêté de jouer il y a six mois,
voilà,
ce spectacle.
Un spectacle qu'on attend le suivant. Mathieu Longat, avec grand plaisir. Et bonsoir, Nassira El Mouadem.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, Nassira, pour Arrêt sur Image et vous avez dirigé pendant un temps, c'était entre 2016 et 2018, ce fameux Bondy Blog issu de 2005 et qui, bien sûr, existe encore et qui est peut-être la meilleure nouvelle de 2005. Et puisque je vous ai interrompu, je vais revenir vers vous très très vite. Nassira, Mathieu Longat, il y a cette idée effectivement de la banlieue. Ça commence là, hein, les ordres vocabulaires. C'est comme moi qui commence en disant ah ben, les émeutes. Allez, hop, tout le monde
complètement,
dans le même
sac. Bah, c'est intéressant à deux niveaux. Effectivement, pour moi, les émeutes, bah, moi, j'appelais ça une révolte populaire pour la justice des enfants, parce que c'est deux enfants qui sont morts et à qui ont refusé la justice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très lacunaire dans la mémoire française sur ce qui s'est passé en 2005. Mais il faut savoir que le juge, le procureur Molins, refusait d'ouvrir une enquête. D'ouvrir une enquête, c'était même pas y aller avoir un non-lieu comme d'habitude, etc. Et dès que l'enquête a été ouverte, les émeutes se sont essoufflées. Donc peut-être qu'il y avait juste voilà un besoin de justice de la part de gens qu'on n'écoute jamais. Et effectivement, je trouve ça intéressant aussi l'intervention de votre auditrice parce que via les mécanismes médiatiques notamment, quelqu'un qui habite en banlieue de Limoges ne conçoit même pas que ça puisse être une banlieue, alors que la banlieue, voilà, sémantiquement, signifie effectivement la périphérie de la ville et des grandes villes et l'espèce de. Et puis ça me fait plaisir de voir qu'elle a adopté la banlieue parce qu'effectivement. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait Narvalo dans cet esprit-là, c'est que je connais que des gens qui ont été heureux de vivre en banlieue, et du coup c'est en total décalage avec l'image qu'on nous dépeint dans les médias globalement.
Vous disiez qu'il fallait d'une certaine façon, parce qu'on avait beaucoup trop focalisé effectivement sur les émeutes et le reste, il fallait changer notre regard, mais y compris changer le regard paternaliste. C'est quoi regard paternaliste qu'on avait, qu'on a probablement toujours sur les banlieues d'ailleurs?
Je trouve qu'à cette échelle-là, la proposition culturelle, elle est intéressante et c'est absolument ce que je voulais pas faire dans Narvalo. C'est-à-dire pour moi c'est un endroit enviable, la banlieue. Encore une fois, je connais que des gens qui ont été heureux de divers horizons et de diverses origines, qui ont été heureux d'y grandir. Et on y dépeint toujours un endroit dramatique. C'est-à-dire que dans les fictions françaises, la banlieue c'est toujours un endroit. Si on y passe, c'est pour quitter le plus vite possible ou pour sauver quelqu'un qui est condamné à la banlieue. Et du coup, moi j'avais cette envie-là de créer un endroit.
La figure,
Et j'avais cette envie-là de créer un endroit qui ressemblait plus à ce que j'ai connu, à savoir un endroit où il y a des gens particulièrement attachants, des gens qui ont souvent des storytelling marrants et des anecdotes marrantes, parce que je nous ai toujours vu un petit peu comme une race hybride, justement, entre la région et Paris. Et du coup, on est à la fois entre les provinciaux, les gens de région et Paris. Et du coup, peut-être qu'on a un regard, en vrai, qui est peut-être assez éclairant sur la société, parce qu'on est assez intermédiaire, quoi.
Et on y reviendra, parce que, et comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est un moment, c'est vous qui sortez ce que vous êtes et qui allez le montrer aux autres, en fait. Et peut-être que c'est pas nous, de notre côté du périph', qui avons la curiosité d'aller voir, justement, ce qui se passe de l'autre côté. Nassira El Mouadem, sur le vocabulaire d'abord, à la fois sur la banlieue, effectivement cette espèce de grand tout dans lequel on ne sait pas très bien ce qu'on met, et y compris ce que je disais à l'introduction d'ailleurs, les émeutes de 2005, comme si là aussi, pareil, on était dans une espèce de grand tout et qu'on n'en avait rien tiré finalement de ce moment-là. Le vocabulaire, Nassira, pour vous?
Le vocabulaire, forcément, pour une journaliste comme moi, mais c'est le cas aussi pour vous, Fabienne, et pour surtout Arrêt sur Image, il est hyper important quels mots on colle à des réalités sociales et à des réalités médiatiques. Moi, j'ai jamais utilisé le mot émeute parce qu'en fait, pour moi, c'est un piège, ce mot. Il enferme en fait sur une représentation figée. L'émeute, c'est la colère, mais la révolte, par contre, elle nous oblige à interroger les raisons. Elle nous oblige à interroger évidemment les raisons sociales, les raisons territoriales, les raisons historiques qui poussent un certain nombre de gens à se révolter. Et ça a été le cas en 2005, mais ça a été le cas aussi ensuite à plusieurs reprises les années suivantes, notamment à 2023 avec les grandes manifestations après la mort de Naël Merzouk, absolument. Et ça continuera encore, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas réglé les maux profonds de l'abandon de ces territoires, de ces quartiers populaires, moi je parle plutôt de quartiers populaires parce qu'en fait les banlieues, et en région parisienne, il y en a beaucoup qui sont plutôt riches, voire même très riches, tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, je pense que on n'aurait rien compris. Ça, c'est la première chose. Et puis, je reviens aussi sur ce qu'a dit Marie. Moi, je trouve ça toujours très intéressant parce que moi, je ne suis pas née dans un quartier populaire, ou alors même, j'ai grandi dans un tout petit quartier, et c'est là où je veux en venir sur la dichotomie entre la ruralité et la banlieue. Moi, je suis née dans le Loir-et-Cher, et j'ai grandi à Sept-sur-Cher, très connue pour son fromage de chèvre, pas vraiment pour ses quartiers populaires, et pourtant, j'ai grandi dans un petit quartier populaire de Sept-sur-Cher, et puis ensuite, j'ai grandi à Romorantin. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a plein de quartiers populaires partout en France, et même les gens qui vivent dans les campagnes se retrouvent aussi dans l'image de déformation médiatique, quelque part aussi, qu'on colle aux quartiers populaires. Je veux dire deux choses. Quand on a parlé, par exemple, de la question des gilets jaunes, vous vous souvenez, on opposait les banlieusards aux ruraux. On disait, on a déversé des milliards d'euros pour les plans banlieues. Évidemment, tout ça a été complètement faux, tout ça a été débunké, mais ça a été quand même la petite musique qui consistait à dire, vous, les banlieusards, vous avez eu beaucoup plus que les agriculteurs, les paysans et tous ceux...
Mais on disait surtout, on reprochait aussi à la banlieue, pardon Nassira El Mouadem, ce qu'on reprochait aussi, moi je me souviens dans mes souvenirs, c'était mais comment ça, vous n'êtes pas dans les manifestations au fond, donc vous ne le passez pas, vous le périph' non plus. On a beaucoup entendu ça pendant les Gilets jaunes. Où est-ce que vous êtes? On ne l'a pas entendu que pendant les Gilets jaunes d'ailleurs, on l'entend à chaque grosse manif.
C'est vrai, et moi je l'ai entendu aussi à Romorantin quand j'ai écrit mon livre Les filles de Romorantin, où j'ai suivi Caroline, qui est mon amie d'enfance, qui était membre des Gilets jaunes, et j'ai rencontré des habitants de quartiers populaires de Romorantin qui me disaient « mais nous en fait on va pas y aller, parce que si nous on y va, on va nous demander des comptes, parce que nous en fait... C'est nous qui sommes victimes de violences policières. C'est pas les habitants des campagnes, en fait. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a opposé tous ces gens alors même qu'ils vivent la même chose. Ils vivent la précarité, la pauvreté, l'isolement territorial, le fait de devoir prendre des trains et à n'en plus finir pour rejoindre les centres-villes. Et c'est ça que je regrette, moi, dans l'image médiatique qu'on a fait de ces quartiers, c'est qu'en fait, on les a opposés au reste de la France. Or, aujourd'hui, la fracture numérique, la question de l'éducation nationale, du manque de moyens dans un certain nombre d'établissements, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient là-dessus.
Avant de retourner au standard, un mot Mathieu Longuette, parce que pendant que j'entendais Nassira El Mouadem, je me souviens, j'ai sorti ce morceau d'archives d'un papier de Libé qui date de Naël, et à ces gens de banlieue à qui on dit, mais enfin quand même, alors vous n'y étiez pas, vous par exemple, dans les Gilets jaunes,
ils étaient,
et il y en a un qui répond un truc génial, il dit, mais moi ça fait 40 ans qu'on est Gilets jaunes dans nos quartiers, alors, on n'a pas besoin de recevoir de personnes.
De deux, ils y étaient. Absolument, ils y étaient en grande partie. Enfin, il y avait plus de banlieusards, en tout cas, que dans les manifs globalement pendant les Gilets jaunes, donc je ne pense pas que ça soit pertinent. Et il y a quelque chose qui me paraît important aussi sur cette affaire de sémantique, d'émeute, etc. Déjà, c'est ce qui s'est reproduit exactement la même chose avec Naël, et encore une fois, on refusait la justice, et c'est à partir du moment où le policier a été mis en détention provisoire que les choses se sont calmées. Et de deux, il y a une dimension, je pense qu'on peut pas du tout occulter, et c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'a dit la première personne qui a appelé, pourquoi elle-même ne se sentait pas banlieusard, parce que c'est la dimension du racisme. Et il faut se rendre compte qu'en vrai, les Noirs et les Arabes en France, et particulièrement dans les quartiers populaires, on les animalise absolument, on leur refuse la perspective de pouvoir avoir un cerveau ou une perspective politique quelconque. Alors que ce que raconte ce que vous appelez globalement la société des émeutes, et ce qui est pour moi des révoltes populaires pour exiger une forme de justice, c'est qu'en fait, quand le système, la société les met dans une impasse démocratique, et ben il s'exprime par la manifestation. Et si d'ailleurs j'ai une seconde tout à l'heure, je dirais bien une citation de Victor Hugo qui date de 1890.
Allez-y.
Je peux y aller même maintenant ?
Allez-y, vous pouvez y aller maintenant.
Je peux la retrouver rapidement en 14 secondes.
Si vous la cherchez, on écoute Mathieu pendant que vous cherchez la citation de Victor Hugo.
Je l'ai tout de suite, comme vous voulez.
Allez-y Mathieu.
Alors c'est Journal d'un révolutionnaire de 1830, Victor Hugo. Une révolution, quand elle passe de l'état de théorie à l'état d'action, débouche d'ordinaire par l'émeute. L'émeute est la première des diverses formes violentes qu'il est dans la loi d'une révolution de prendre. L'émeute, c'est l'engorgement des intérêts nouveaux, des idées nouvelles, des besoins nouveaux à toutes les portes trop étroites du vieil édifice politique. Tous veulent entrer à la fois dans toutes les jouissances sociales. Aussi est-il rare qu'une révolution ne commence pas par enfoncer les portes. Il est de l'essence de l'émeute révolutionnaire qu'il ne faut pas confondre avec les autres sortes d'émeutes, d'avoir presque toujours tort dans la forme et raison dans le fond.
Mathieu Longuette qui cite donc Victor Hugo, merci beaucoup. Voici un autre Mathieu qui est au standard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
On vous écoute, hein. Soyez le bienvenu.
Moi j'étais intervenu pour dire que d'abord ça serait intéressant de savoir combien de journalistes, de grands médias, de médias mainstream, habitent en banlieue, et pas dans les banlieues chics, dans les quartiers populaires. J'ai bien aimé ce qui a été dit avant. Et puis la deuxième chose, c'était de dire, ça serait intéressant que les journalistes ne s'intéressent pas, et les grands médias ne s'intéressent pas que quand il y a l'anniversaire d'un drame, mais viennent au quotidien voir ce qui se passe dans les structures, dans les associations qui en ce moment souffrent beaucoup, qui sont un pilier indispensable dans ces quartiers et qui sont en ce moment très fragilisés, viennent voir les associations sportives, les associations culturelles, les associations sociales. Il y a toute une vie, toute une solidarité qui existe, qui est totalement invisible dans les médias.
Merci beaucoup Mathieu pour cette remarque. Nassira El Mouadem, à chaque fois qu'on fait une émission autour de ces thèmes-là, on se la prend dans les dents, cette remarque de Mathieu, mais il a raison. Il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits. On a vu rentrer à l'intérieur des rédacs, à l'intérieur des écoles de journalisme, à l'intérieur des rédacs, un peu plus de gens qui étaient issus, comme vous le disiez tout à l'heure, des quartiers populaires, mais évidemment que ça se compte sur les doigts d'une main. Enfin, soyons clairs, on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Alors moi, je prends ça pour mon grade. Moi, je n'habite pas en banlieue, donc voilà, je me prends ça aussi en pleine face. Et il a bien raison, ce monsieur. Plusieurs choses là-dessus. effectivement, il y a eu des progrès. Maintenant, on a toujours dit, quand je dis « on », c'est-à-dire les journalistes qui ont travaillé sur la question des quartiers populaires, c'est est-ce que, par exemple, quand on a mis Harry Roselmack à la tête du journal de TF1, ça a changé la couleur du journal de TF1 ? Mm-hmm. Pas du tout. Et en fait, voilà, le sujet, c'est les lignes éditoriales, mm-hmm. plus que ouais. les journalistes mm-hmm. qui font les journaux. Alors oui, il y a eu des progrès. Je crois que l'exemple médiatique le plus fort et le plus visible, c'est le Bondy Blog. Et le Bondy Blog existe toujours. Il y a plein d'autres médias qui se sont créés. Mais justement, aujourd'hui, je crois que les médias qui se sont créés et qui parlent le mieux des banlieusards, des habitants des quartiers populaires, ce sont des médias qui ont été créés par des habitants des quartiers populaires. Et ça dit beaucoup de choses, en fait. Parce que je pense, par exemple, aux banlieusards.
Cela dit, c'est pas le cas du Bondy Blog, Nassira. Cela dit, c'est pas le cas du Bondy Blog. Quand le Bondy Blog est né, c'est ce moment incroyable de journalistes suisses qui travaillent dans un journal qui n'existe même plus aujourd'hui, qui s'appelait L'Hebdo, et qui décident de s'installer à Bondy. C'est vraiment le meilleur des contre-exemples, en fait.
Alors, c'est le meilleur des contre-exemples à l'origine, et effectivement, ouais. c'est très révélateur que ce soit des journalistes étrangers qui aient créé ce média. Mais aujourd'hui, la plupart des Bien gens sûr. Qui travaillent et qui écrivent au Bondy Blog, ce sont vraiment des gens des quartiers.
Absolument.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à ce que disait Mathieu, l'auditeur, et il a raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça n'intéresse plus les médias, les banlieues. Ou alors, ça les intéresse uniquement quand il y a un agenda politique, une instrumentalisation politique. Et c'est là où c'est terrible et où on rentre dans le piège. C'est-à-dire que il y a très peu de journalistes qui sont spécialisés banlieue aujourd'hui. Je pense que on peut les compter sur les doigts d'une seule main, pas de deux, d'une seule main. Y compris dans le service public de Radio France, par exemple. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on suit l'agenda d'Éric Zemmour. On suit l'agenda d'un tel qui va aller un jour sortir une fake news. Et on va être dans le contre-récit. Mais on pourra jamais être aussi fort que l'extrême droite qui désinforme. Et donc, effectivement, si on n'investit pas autant qu'on a investi dans des services comme, par exemple, des journalistes économiques ou des journalistes politiques, on n'y arrivera pas. On sera toujours, évidemment, toujours à la ramasse et on n'arrivera jamais à raconter le réel tel qu'il est aujourd'hui. Or, ce que dit Mathieu, il a raison. Il y a des solidarités phénoménales qui se passent en banlieue. Alors, des solidarités qui sont des réponses à des abandons, y compris de services publics, ce qui pose un vrai problème et ce qui pose beaucoup de questions. Mais honnêtement, moi, je crois que j'ai jamais eu autant de vibrations dans mon métier que lorsque j'ai été dans les quartiers pour tendre le micro, parce que les gens ont tellement de choses à raconter du réel. Et c'est ça qui manque.
Je trouve que c'est intéressant ce que dit Nassira El-Mohadem, Mathieu Longat, parce que ça marche. Effectivement, il faut le prendre pour nous, pour les journalistes, c'est-à-dire, en général, ce sont ceux qui sont installés à l'intérieur des quartiers qui font parler le quartier, mais c'est le cas des scénaristes, c'est le cas des vidéastes comme vous, c'est le cas des stand-uppers. À un moment, il a bien fallu que ce soit la banlieue qui dise « Eh oh, regardez ce qu'on sait faire, en fait. »
Oui, tout à fait.
Parce que, comme je le dis tout à l'heure, c'est pas nous qui aurions passé le périph' aussi facilement.
Oui, et puis tout à l'heure, vous parliez de paternalisme, et je crois que pendant une période, il y a eu un espèce de paternalisme aussi, on se dit « Oh, les pauvres petits, il faut leur tendre un micro. » Et non, il faut pas leur tendre un micro, en fait, donner leur des micros. C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal, par exemple, avec l'expression des journalistes spécialistes de la banlieue, parce que pour moi, ça veut rien dire, c'est comme spécialiste de la société. À vos souhaits. C'est comme spécialiste de la société.
Attention,
en vrai, parce que
voilà, deux fois.
Parce que la banlieue, pour moi, est très représentative de la société, et c'est la réduire, pour moi, de vouloir de la rendre moins complexe qu'une société en entier, parce que je pense qu'elle représente une société. Et effectivement, à l'échelle culturelle, et des créateurs et des artistes, le problème c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens qui veulent traiter de la banlieue ne sont pas des gens qui la connaissent, et ils ont même pas d'affection pour leur sujet, ni de professionnalisme, à savoir à se donner les moyens de travail sociologique pour en tirer un jus un tant soit peu intéressant. Et du coup, le problème c'est que on donne pas assez la parole aux banlieusards directement pour parler de ce qu'ils connaissent, et que les gens des soirées mondaines parisiennes, au lieu de nous écrire des films sur leurs soirées mondaines parisiennes, moi demain si je veux écrire un film sur les soirées mondaines, je vais aller me bouffer des soirées mondaines pendant 6 mois, et ils veulent écrire des films sur la banlieue parce qu'il y a un fantasme sociétal sur la banlieue qu'il ne faut pas minimiser non plus. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ne connaissent rien à leur sujet et qui, en plus, n'ont pas l'affection nécessaire pour s'y intéresser assez pour en rendre un jus réaliste, naturaliste.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double chose aujourd'hui et en 20 ans, Nassira El-Mohadem, à la fois, on regarde effectivement ces quartiers différemment, on a sorti des histoires de ces quartiers quand même, on entend des gens de ces quartiers, et en même temps, le discours sur les banlieues, vous avez cité Éric Zemmour, le Rassemblement National, Nassira El-Mohadem. Le discours sur les banlieues s'est énormément durci, en fait, ces derniers temps. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et ça, au fond, depuis ces 20 dernières années.
Je ne sais pas si le regard a fondamentalement changé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Fabienne ?
Eh ben moi, je pense qu'on a quand même sorti des gens, on a entendu des initiatives, on a profité de 2005 pour ça. On sait qu'il existe des histoires, on sait qu'il y a des entreprises, on sait qu'il y a des gens qui y travaillent. Enfin, on a été chercher après des histoires qu'on n'allait pas chercher avant, qu'aujourd'hui on va chercher, c'est tant mieux.
C'est intéressant parce que vous citez les 20 ans et vous citez la commémoration autour de la mort de Ziad Ebouna. Et en fait, c'est la triste histoire en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas possible en fait de raconter des territoires entiers, 6 millions de personnes, à travers uniquement des commémorations et des agendas d'anniversaire des agendas politiques. Enfin, je veux dire, et c'est d'ailleurs un travers dans plein d'autres rubriques par ailleurs journalistiques. Hein, je veux dire, tous les journalistes politiques vous diront que être à la merci de l'agenda des ministres, à l'agenda politique, c'est pas du tout faire du bon journalisme politique. Pareil pour ça aussi, c'est-à-dire que effectivement, si on se donne bonne conscience en se disant tous les 10 ans, tous les 20 ans, on a tendu le micro aux habitants des quartiers, on a fait notre travail. Bon, bah, on est peu ambitieux et puis en fait, on raconte pas le réel dans son quotidien. Et je rejoins évidemment Mathieu Longuette quand il disait sur le côté. Effectivement, il faudrait peut-être pas des journalistes spécialisés. Quand je disais ça, en fait, c'est parce que c'est beaucoup de réseaux et c'est beaucoup de temps aussi à passer sur le terrain.
Après,
et
moi, donc, pardon, finissez, Nassira, allez-y, pardon.
Non, mais je disais, voilà, c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais directrice du Boudinblog, mais pas encore aujourd'hui, puisque là, je travaille sur une enquête à venir en Seine-Saint-Denis qui sortira en février, juste avant les municipales. C'est énormément de temps. J'ai passé 5 ans, par exemple. Vraiment, sur cet exemple-là, j'ai passé 5 ans sur le terrain dans une seule ville de Seine-Saint-Denis. D'abord parce qu'il y a quand même la défiance aussi à l'égard des journalistes sur laquelle il faut travailler. Parce que quand on arrive dans un quartier ou dans une ville où des dizaines et des dizaines de journalistes sont venus en caméra embarquée, en faisant des stugés policiers à Thierry on doit d'abord essayer de retrouver la confiance. Ça prend énormément de temps. Et puis une fois qu'on a trouvé la confiance, il faut prendre le temps aussi d'expliquer pour quelles raisons on fait ce travail, parce qu'en fait il y a des dizaines de journalistes qui sont passés et qui ont mal monté des paroles ou qui ont mal
trahi volontairement ce qui est de mon expérience.
Oui, absolument. Et donc ça prend énormément de temps. Et donc ce que je veux dire par là quand je dis de journaliste spécialisé, c'est qu'en fait il y a énormément de travail humain à faire. Et ça, c'est un investissement que les rédactions doivent faire. Et donc, en ça, oui, je crois que ce temps-là, malheureusement, il est nécessaire parce qu'il y a énormément de choses à rattraper de toutes ces années de malformations médiatiques.
Il y a on va d'abord écouter Olivier. Tiens, je vais manger ma question, je vais la mettre sur l'oreille, je vais la poser après, je voudrais qu'on écoute Olivier d'abord. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute, Olivier.
Mon intervention viendrait sur les termes justement qu'on cherchait à placer sur ce dont on parle ce soir. Parce que justement, quand on dit banlieue populaire, si je vous dis en fait un bal populaire ou une chanson populaire, je sais pas, populaire, ça sonne pas pareil en fait. Et moi, j'ai vécu mon enfance jusqu'à 26 ans à Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, on peut appeler ça des banlieues. Au terme où on l'entend. Je pense que j'étais plutôt dans une cité dortoir et puis une cité pauvre. Ce qui est, pour moi, là, le terme qui est un petit peu, je vais dire, tabou.
Le mot quartier populaire, c'est une espèce de périphrase pour pas dire quartier pauvre, quoi, en fait.
Exactement, parce que, je sais pas, moi, Neuilly, c'est sympa comme banlieue, en fait, vis-à-vis de, vous voyez, de différents lieux. Donc, et puis, venant de là, moi, j'ai travaillé pour une maison de presse sur les Champs-Élysées, et je pouvais voir la différence parce que j'habitais à Paris à ce moment-là. Et moi, j'ai le vocabulaire et les références, en fait, de la banlieue. Et quand je vois les journalistes des rédactions que je connais, oui, en effet, ils viennent pas de banlieue, c'est pas de leur faute. Mais les écoles de journalistes, quand elles sont rachetées par les personnes qui les rachètent en ce moment, la banlieue, elle va pas progresser dans ce sens-là. Et c'est pas fait pour aller mieux.
Voilà. Merci, Olivier, pour cette remarque. Nassira El Mouadem, quartier populaire, disons quartier pauvre, parce que c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous dites de cette remarque d'Olivier ?
Moi, je crois qu'il a absolument raison et je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est juste aussi par respect pour les gens que moi, en tout cas, je utilise l'expression quartier populaire parce que quartier pauvre, c'est déjà stigmatisant pour des gens qui sont déjà stigmatisés au quotidien. Donc voilà, mais sur le fond et sociologiquement, il a raison.
C'est même essentialisant, en fait. Il y a quelque chose d'essentialisé. Bah, de toute façon, tu habites dans ce quartier, t'es pauvre.
Attention quand même. Oui, absolument. Mais attention quand même à ne pas croire que la banlieue n'est pas aussi, ou les banlieues populaires ne sont pas aussi des enjeux de gentrification sociale, des enjeux pour les promotions, la promotion immobilière. En Seine-Saint-Denis, par exemple, si vous y habitez ou si vous y travaillez, vous ne pouvez pas passer à côté de toutes ces pancartes à vendre, de ces pancartes de promoteurs immobiliers qui sont là, et des chantiers immenses de résidences privées qui sont en train de pousser comme des champignons partout, parce qu'il y a aussi un enjeu économique extrêmement important pour ce secteur de l'immobilier, qui a bien compris que plein de familles ne pouvaient plus habiter à Paris, qu'ils sont donc désormais repoussés, etc. Et les habitants de ces quartiers-là, de ces banlieues populaires, sont eux-mêmes repoussés à des dizaines de kilomètres en dehors, par exemple, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-d'Oise. Donc, c'est pas figé, la banlieue. Voilà ça que je veux dire. C'est-à-dire que les banlieues populaires, elles ne sont pas figées, elles sont aussi l'objet de spéculations financières, économiques, immobilières très fortes.
Puisqu'on parle beaucoup de vocabulaire et que vous avez cité Victor Hugo, Mathieu Langatte, on a un auditeur sur WhatsApp qui cite Albert Camus et qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Exactement. Il y a notamment une remarque de Dominique sur WhatsApp qui dit « Je constate qu'on identifie toujours et qu'on ne parle de la banlieue qu'en bisounours ou en problème ». Donc ça n'est pas un territoire comme les autres, médiatiquement et vu d'ailleurs. Et elle a raison, et moi j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se sortir, je vais vous poser la question à tous les deux, Mathieu Langatte, on a du mal à se sortir de cette tenaille en fait.
De cette vision essentialisante, on veut simplifier.
Oui. Exactement, soit on raconte une belle histoire, et au fond elle est très caricaturale, soit on raconte les gamins qui tiennent les murs et les trafics de drogue, et donc on raconte le pire de la banlieue. On est dans cette espèce de tenaille, et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas trouvé la sortie en fait de cette tenaille-là. Qu'est-ce que vous en dites ?
Complètement, et même dans la projection qu'on en fait, là je trouvais ça intéressant aussi la question sur le fait d'appeler ça quartier populaire, parce qu'en vrai le gros sujet c'est juste que les gens ont du mal à assimiler qu'il y a plus de pavillons que de cités en banlieue, et j'aime pas le côté quartier populaire parce que ça enlève toute la dimension urbaine. En vrai les cités ont eu un impact énorme sur les micro-sociétés qui s'y sont créées, notamment en banlieue, et voilà, l'aspect urbain pour moi est très important dans ce qui s'est créé par la suite. Pardon, rappelez-moi juste que la fin de votre question.
La question c'était, est-ce qu'on n'est pas pris en tenaille?
Oui, si, dans le fait d'essentialiser à chaque fois.
Exactement, soit on raconte une histoire qui est hyper positif.
Mais parce qu'on ne veut pas comprendre qu'il y a toute la société dans la banlieue. Encore une fois, que voilà, il y a toutes les origines sociales et ethniques, il y a toutes les religions, qu'il y a tous les genres, et on a du mal vraiment, on veut en faire une société à part, alors que je pense qu'à l'inverse, c'est quasiment ce qui représente le mieux notre société dans son ensemble, et ce qui est plus proche que par exemple une ville de région ou Paris en lui-même sont sociologiquement plus singuliers et représentent moins la France qu'en vrai une grande ville de banlieue, etc., où on retrouve plus tout le monde en vrai. Donc je pense que c'est une erreur, et ça part encore une fois d'un racisme, comment dire, géographique et ethnique.
Nassira El Mouadem, là-dessus, comment on fait pour sortir de cette tenaille-là? En effet, je lisais en préparant cette émission, je ne sais pas qui disait à un moment, il faudrait une espèce de Jean-Pierre Pernaut des quartiers. Et en même temps que je lis cette phrase, je me dis, au secours, en fait, est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut? Enfin, je veux dire, on est dans la caricature inverse de la même manière, enfin...
Mais moi, j'irais même plus loin que Mathieu Langatte. Moi, évidemment que je parle aussi de racisme, mais j'irais plus loin, en fait, c'est une vision coloniale. Une vision coloniale, territoriale, en fait. C'est-à-dire que c'est la petite tape dans le dos, pardon, ou alors c'est la fessée, voire plus.
Ça, donc c'est le paternalisme ou la baguette, en fait.
Mais c'est plus que ça, c'est une vision coloniale.
Et d'en faire un truc toujours en marge de la société, alors que ça représente, encore une fois, certainement mieux la société que la plupart des autres lieux géographiques.
Mais alors, après, comment on sort de ça? Peut-être que, par exemple, j'en sais rien, mais par exemple, pour faire des sujets rentrer des classes, les sujets qu'on appelle les marronniers chez nous dans le journalisme, bah, plutôt que d'aller juste à côté de sa rédac, on va aller dans un quartier pop. Voilà, parce qu'on va y trouver exactement la même chose, sauf qu'on va donner à voir la banalité du quotidien dans la banlieue populaire. populaires, dans les banlieues populaires, qui sont traversées par tout ce que nous, on traverse en tant que parents, en tant qu'enfants, la difficulté de se loger, des établissements scolaires à la peine, la difficulté de se mouvoir pour aller d'un point A à un point B pour aller travailler. Enfin, voilà, des choses banales.
C'est intéressant ce que vous dites, Nassira El-Mouadem. Est-ce que c'est ça, au fond, est-ce que c'est ça la clé? C'est ça qu'on refuse? On refuse de voir la banalité du quotidien, la banalité des quartiers, qu'on les appelle les quartiers pauvres ou les quartiers populaires. Est-ce que c'est aussi simple que ça, en fait?
Bah, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais en tout cas, dans la pratique journalistique, il y a quand même un côté un peu adrénaline pour certains de se dire « j'ai été en banlieue, j'ai été faire mon reportage de banlieue ». Je l'ai quand même entendu beaucoup de fois pour dire que ça existe. Et donc, si on enlève cette adrénaline-là, ça devient complètement banal, en fait, d'y aller pour raconter, comme je le disais, la rentrée de classe ou la galette des rois. Or, en fait, c'est ça la vérité du quotidien des gens qui y habitent. Encore une fois, ils sont traversés par les mêmes préoccupations quotidiennes que n'importe quel Français. Et donc, je ne sais pas si c'est l'alpha oméga, évidemment que ça ne l'est pas, mais je crois quand même que, du point de vue en tout cas des habitants, ça c'est quelque chose qui a été, que j'ai beaucoup entendu. Arrêtez de venir vers nous quand ça brûle, arrêtez de venir vers nous quand il y a des problèmes, faites-nous exister dans les sujets qui sont les nôtres.
Voilà, mais sans pour autant sombrer dans le... Voilà, mais sans pour autant... Pardon, allez-y.
Oui, non, je voulais juste terminer là-dessus, par exemple, sur la difficulté d'avoir accès à un médecin. Ouais. Est-ce que vous savez que, par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est un désert médical?
Bien sûr, oui.
Voilà. Par exemple, si on va traiter un jour d'un désert médical dans une rédac, on va plutôt aller à la campagne parce que ça fait des images, etc. Alors que juste à côté, à 10 km, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, c'est les mêmes préoccupations.
C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, Nassira El-Mouadem. À la fois, vous dites, et vous avez raison, ne venez pas uniquement quand il y a des émeutes et quand il y a des problèmes, mais il ne faudrait pas que le pendant, ce soit effectivement le Jean-Pierre Pernaut des quartiers, en fait, parce que c'est pas plus réel et c'est pas moins caricatural finalement que la drogue et les gamins qui tiennent les murs.
Oui, bien sûr, mais ça nous empêchera pas de continuer à raconter ces histoires-là. On le fait partout ailleurs. Il n'y a pas de raison que pour les quartiers populaires, ce soit pas le cas. Mais vous voyez bien que là, on est d'un côté le héros de la barre d'immeubles qui a sauvé Madame Michu, et de l'autre la bande qui casse partout. Enfin, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas.
Pardon, allez-y.
Non, et puis il y a ce truc-là, j'ai l'impression, dans la démarche journalistique, d'appréhender toujours les banlieusards ou les banlieusardes avec un postulat de singularité ou d'individu en marge, comme si le simple fait d'être banlieusard nous mettait dans une marge. Et je pense que ça a aussi une forme d'usage social du pouvoir médiatique et politique, à savoir opposer les pauvres de région. Il y a une menace encore plus, vous êtes pauvre, mais vous pourriez être pauvre dans un endroit dangereux. Et je pense qu'il y a une manipulation du racisme et de la figure du banlieusard pour aussi que, alors que tous les pauvres de France devraient se tenir la main pour monter à l'Élysée, on est assez d'accord là-dessus, je pense que les individus sensés, et que ça a aussi un usage pour les individus de région, pour créer une espèce de chimère, et du coup, ce truc-là, de pas appréhender tout simplement dans leur humanité, et dans les différentes... le caractère qu'on peut y trouver, en gros c'est un pré-postulat systématiquement quand on va s'adresser à un banlieusard comme si c'était un truc décisif socialement, alors qu'encore une fois moi mon propos c'est de dire que globalement je pense qu'on est plus représentatif de la majorité de la société que les Parisiens ou que les gens qui habitent dans des endroits très reculés.
Je voudrais vous lire deux messages sur WhatsApp. Il y en a un de Yvan d'abord qui dit bien entendu qu'il y a une grande majorité de gens bien qui vivent en banlieue, mais j'aurais aimé entendre aussi le côté moins positif, comme le trafic de drogue et cette sorte de culture anti-flic. Beaucoup en banlieue craignent bien plus les caïds du coin que la police, qui ne se sauve pas en courant lors d'un contrôle. Ça, c'est Yvan. Et puis on a Françoise qui
regarde beaucoup la télé, je pense. Mais...
alors voilà, et il y a Françoise aussi qui dit 20 ans de travail en banlieue à diriger une asso en direction des femmes. Pléthore de sociologues, de journalistes curieux, de doctorants, de sociaux, télé, radio, etc. sont venus, nous dit Françoise. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits, ont été publiés, des thèses, des livres, des mémoires. Entendre que l'on ne parle que de choses que lorsque ça va mal, c'est faux. Il y a plein de belles choses qui ont été racontées, nous dit Françoise, mais le public ne s'intéresse qu'aux faits divers et au fond, à ce qui va mal.
Alors, je suis pas... bah, du coup, ça me fait penser à un film que ça me fait plaisir de nommer, qui s'appelait Swagger, si je dis pas de bêtises, et pour le coup, il me semble que c'est Cantet, le nom du réalisateur, mais c'est un très bon réalisateur qui a justement la rareté de s'intéresser à ces sujets. Et pour le coup, c'était un feel-good movie, docu-fiction, qui se passait dans le 80. 93 que je conseille à tout le monde et qui a très bien marché au cinéma en termes de contre-exemple. Mais je la rejoins sur le fait. Mais encore une fois, on en revient plus sur la question du paternalisme. Quand c'est traité de manière positive, c'est que souvent bah il y a des petits restes de stigmates de supériorité ou de paternalisme. Et quand c'est bien, ils font des dessins, ils arrivent à faire des trucs, ils font un peu de journalisme. Donc je pense qu'on en vient à d'autres stigmates. Mais je la rejoins sur le fait que. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est qu'on n'est jamais un peu sur les. Il faut toujours que ce soit très très notable pour que ce soit la banlieue ou très grave ou très heureux quoi.
Il a raison, Mathieu Nassir El Mouadem. Il faut que ce soit très en fait. Et vous disiez tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à aller chercher la banalité. La banalité, c'est ce qui est au milieu, c'est ce qui peut être aussi le ventre mou et c'est la vie. C'est notre vie à tous
et
en fait.
Et c'est pas idéaliser les choses comme disait l'auditeur d'avant. On a grandi en banlieue, on connaît aussi, mais on connaît les mécanismes. On sait que c'est la paupérisation et l'absence de perspectives professionnelles et une société globalement malade de son racisme qui pousse énormément de gens, notamment vers le trafic de drogue, et que si à 16 ans, votre seule opportunité professionnelle, c'est le SMIC ou vendre un peu de shit, qui devrait être légalisé en plus dans notre pays, je sais pas si les gens qui vendent du shit font le choix intellectuellement le plus débile. Et pour ce qui est de courir devant la police, moi je suis un blanc qui a grandi en pavillon mais qui a beaucoup traîné avec des gens de cité. Si un jour ce monsieur a l'occasion de traîner dans des groupes où il est le seul blanc entouré de noirs et d'arabes, il pourra jauger de la brutalité gratuite et du sentiment d'impunité de la police, et il aura envie de courir quand il les croise aussi, parce que ça a été mon cas et j'ai pas encore fait une garde à vue dans ma vie.
Nassira El Mouadem, cette idée de ce que nous dit Françoise sur le fait que de toute façon, en fait, les gens ne veulent que ce qui va mal. Et ce que je veux dire en creux, c'est est-ce qu'une rédac, même une rédaction, peut vendre un sujet banal venant de banlieue aujourd'hui, en fait, pour dire les choses de manière assez crue. Est-ce que ça marche?
C'est pas à vous que je vais apprendre que la rédaction, la vie en rédaction, c'est un rapport de force. Et donc oui, bah il faut y aller, il faut y aller au forceps, il faut se battre pour que ces sujets existent. Mais ça, c'est, je veux dire, de notre quotidien à nous, journalistes dans les rédactions, pour faire que tous nos sujets existent, pas ceux uniquement de banlieue. Alors évidemment, elle a raison de dire que il y a énormément de productions culturelles, il y a énormément de travaux universitaires. Enfin, je veux dire, moi au Bondi Blog, par exemple, on faisait ça quasiment tous les jours de mettre en avant. Mais qu'est-ce que le grand public, c'est-à-dire ceux qui regardent les médias traditionnels, ceux qui regardent les chaînes d'information en continu, retiennent de ça? D'abord, je suis pas sûre que l'information arrive jusqu'à eux. Ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce que les journalistes arrivent aussi à s'en emparer? J'ai pas l'impression. Je veux dire, moi, depuis maintenant 20 ans que je travaille sur ces questions-là, je vois bien qu'aujourd'hui, ça n'intéresse plus. Ou alors, quand ça intéresse, encore une fois, c'est uniquement parce qu'il y a eu une mauvaise phrase, une phrase de désinformation médiatique de la part de telle personnalité d'extrême droite. C'est ça le sujet. Et je crois que c'est notre combat à nous, les journalistes, aujourd'hui, sur tous les sujets, mais y compris sur celui-là, celui de la représentation médiatique des quartiers populaires, à savoir ne pas tomber dans le piège de l'extrême droite.
Ne pas tomber dans aucun piège. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, Nassira El Mouadem et Mathieu Langatte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous pour vos nombreux messages.